Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la question des habitations à loyer modéré ou logements sociaux. Au Kenya, la Haute Cour de justice a jugé illégal un prélèvement de 1,5% sur les salaires pour financer un programme d'habitation à loyer modéré. Au Sénégal, un décret sur la baisse des loyers est entré en vigueur le 1er mars et une commission nationale de régulation des loyers a été créé. Au Tchad, des institutions de microfinance offrent aux femmes des prêts pour des terrains à bâtir avec des intérêts très élevés, jusqu'à 24% selon le Centre pour le financement des habitations abordables. Alors comment permettre aux familles défavorisées d'accéder à des logements décents? Les loyers sont-ils abordables chez vous? Faut-il réguler ou encadrer les prix des loyers? Voilà, nous savons que malgré la mise en place de politique de logement HLM dans certains pays, les loyers sont tout de même très élevés dans les capitales africaines et même les banlieues. Donc la question est aussi de savoir s'il y a des programmes de logements sociaux dans vos pays. Vous avez été nombreux à réagir sur cette question. On commence par faire le point avec Sylvana Raissa Oyaseko, qui est journaliste au Gabon. Elle nous parle justement un petit peu du prix des loyers, entre autres.
Les coûts élevés des loyers tels que 200 à 300 000 francs CFA pour un studio représentent un fardeau financier considérable, en particulier pour les familles à faible revenu. Ces prix contribuent à la difficulté pour de nombreuses personnes d'accéder à des logements décents avec les commodités de base. Les conséquences de ces coûts élevés peuvent inclure la surpopulation dans les logements, l'instabilité résidentielle et une pression financière excessive sur les ménages. Pour permettre aux familles défavorisées d'accéder à des logements décents, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment la mise en place des politiques visant à encourager la construction des logements pour les familles à faible revenu. Cela pourrait inclure des incitations fiscales pour les développeurs immobiliers qui construisent des logements abordables, ainsi que des partenaires publics-privés pour développer des projets de logements sociaux. Le gouvernement pourrait également envisager de fournir des subventions ou des aides au logement directement aux familles défavorisées pour les aider à payer leur loyer ou leur hypothèque. Le contrôle des prix sur les logements abordables pourrait également être une option, surtout dans les zones où les prix de l'immobilier ont augmenté de manière disproportionnée par rapport aux revenus des ménages. Cependant, le contrôle des prix doit être mis en œuvre de manière réfléchie pour éviter les effets secondaires négatifs tels que la pénurie de logements ou la baisse de la qualité des logements disponibles. En investissant dans l'infrastructure de base telles que l'eau potable, l'électricité, les routes et les transports en commun, le gouvernement peut rendre les zones moins développées plus attractives pour les promoteurs immobiliers, ce qui pourrait conduire à une augmentation de l'offre de logements abordables.
C'était la journaliste gabonaise Sylvana Raissa Oyaseko. Nous avons notamment la réflexion de Youssouf Ouedraogo qui est à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il dit sur le Facebook de VOA Afrique, je le cite, l'accès au logement abordable nécessite une approche d'ensemble impliquant les gouvernements, les organisations de la société civile et les entreprises pour trouver des solutions acceptables. Nous avons la réaction au Togo d'une experte en résilience environnementale et sociale, c'est Dr Marie Abalo.
La question des logements sociaux se pose avec acuité au Togo, étant donné que le secteur est caractérisé par une quasi inexistante des structures d'accompagnement et de financement. Ceci se traduit par l'incapacité des ménages à accéder à un logement décent. Les propriétaires n'hésitent pas à spéculer sur les prix de location des maisons qui ne font que flamber. En 2022, par exemple, le gouvernement a tenté de limiter ces spéculations à travers l'adoption d'un décret qui plafonne la caution et la garantie du bail d'habitation à 6 mois de loyer. Mais jusqu'ici, la mise en œuvre de ce test n'est pas effective puisque des dispositions exécutoires ne sont pas encore prises. Il faut quand même préciser que le gouvernement accorde de plus en plus une attention particulière à la question des logements sociaux dans la mesure où, conformément à la feuille de route gouvernementale, un programme global qui ambitionne d'ériger en tout 20 000 logements sociaux a été initié. Reste encore à concrétiser ce programme sur le terrain et surtout à renforcer l'encadrement juridique en la matière.
Alors il y a en effet plusieurs pays où ont été donc lancés des programmes de logements sociaux, mais on reste au Togo avec Sena Dodi.
Je pense que c'est un choix et un sacrifice que les Kenyans doivent faire pour aider le gouvernement dans ce projet de développement. Pour permettre aux familles défavorisées d'avoir accès à des logements décents, l'État doit d'abord trouver du financement pour financer les projets. Au Togo, les loyers sont abordables car le gouvernement a pris des mesures de contrôle sur les loyers. C'est une initiative qui est toujours en cours de négociation entre le gouvernement et les propriétaires car les outils de construction coûtent cher. Donc je pense que les États aussi doivent aider les propriétaires dans leur construction.
Voilà, c'était une réflexion intéressante, effectivement. À ce niveau-là, vous êtes plusieurs à avoir notamment mentionné le fait que oui, les constructeurs doivent aussi être un petit peu soutenus, notamment avec des incitations fiscales ou autres. On a la réflexion d'Alphonse Mbouaki, il est en République démocratique du Congo. Je le cite, il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, « Avant de louer une maison en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, l'État a fixé une garantie ou une caution de 3 mois, mais les propriétaires ne respectent pas ce seuil. Chacun fait comme il veut, dit-il. D'autre part, l'État a exigé un préavis de 3 mois plus 15 jours pour déguerpir un locataire de la maison et le propriétaire doit aller à la commune ou au bureau du quartier pour prendre un acte de préavis. Mais cette procédure n'est pas respectée et on sort le locataire de la maison sans respecter ses démarches. Voilà, c'était la réflexion de Alphonse Mbouaki qui est en République démocratique du Congo. On va à présent en Guinée pour écouter la cinéaste Isabelle Kolkolua.
Les prix de loyer doivent-ils être contrôlés? J'ai dit oui. Le loyer doit être contrôlé en Guinée parce que c'est un secteur dans lequel les prix sont fixés de façon anarchique, sans aucune morale. Tout le monde fixe son prix. Parfois, certains propriétaires de maisons se permettent de réclamer des devises qui ne sont même pas guinéennes. Cela fait souffrir les démunis. Donc, il y a beaucoup d'appartements libres, vides en Guinée parce que le loyer est tellement élevé que ce n'est pas à la portée du Guinéen lambda.
Voilà un petit peu toujours les mêmes réflexions, le problème, la problématique des prix très élevés des loyers. Alors on a le Centre pour le financement des habitations abordables qui parle au sujet du Tchad, disant, je cite, les logements inabordables alimentent l'autoconstruction des bidonvilles, la cuisson des briques cause des dommages à l'environnement. En termes de durabilité, les briques de terre stabilisées pour la construction pourraient être utilisées pour construire des logements décents. Et au Tchad et dans d'autres pays en développement. On va à présent retourner en République démocratique du Congo. On va à Kolwezi très exactement pour écouter Marie-Louise Musenga Mafou.
La RDC a plusieurs institutions financières et de microfinance qui offrent des prêts aux femmes, mais pas seulement pour l'acquisition des terrains à bâtir, mais pour toute activité. Mais la plupart des institutions microfinancières préfèrent mettre ça dans les activités génératrices des revenus AGR. C'est à partir de là que les femmes peuvent s'octroyer des terrains où elles peuvent bâtir leur logement. La politique de la RDC en cette année dans le logement social était à ce qu'on construise dans chaque ville, dans chaque territoire des logements sociaux, mais à la fin de ce mandat, cette politique-là n'a pas pu atteindre ses objectifs. Les femmes réellement défavorisées ont des sérieux problèmes quant au logement décent. Les loyers coûtent cher, mais les femmes se battent pour que le prix de leur loyer soit abordable. Il y a des quartiers où on peut trouver des maisons à prix abordable. La plupart des femmes en situation défavorisée préfèrent vivre dans les périphéries, dans les nouveaux quartiers où parfois il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité tout près, mais il y a des puits d'eau dans les environs. Mais les prix du loyer ou bien de logement ne sont pas totalement contrôlés par rapport aux bailleurs. Ils se fixent les prix eux-mêmes, ils demandent des garanties eux-mêmes, parfois exagérées ou exorbitantes. Jusque-là, le contrôle sur la loi fixant les baux n'a pas encore été suivi.
C'était Marie-Louise Moussenga qui est entrepreneur sociale en République démocratique du Congo. Et comme elle l'a dit, pour citer encore le Centre pour le financement des habitations abordables, je cite donc, il y a une forte proportion de femmes seules avec enfants à charge qui ne peuvent pas acheter une parcelle et y bâtir dans le contexte présent. Donc ça, c'est toujours en fait en ce qui concerne le Tchad. On pourrait aller à présent au Burkina Faso pour écouter la réflexion de Charles Bazema. Il est à Ouagadougou.
Je ne suis pas d'accord avec la justice kényane. C'est vrai, c'est son rôle de donner des décisions, de respecter les lois. Mais ici, c'est pas une question de respect des lois. Ici, c'est une question de développement. C'est une question sociale. Quand on veut se développer, être indépendant des autres, il faut s'assumer, il faut accepter le sacrifice suprême. Si on prélève les 1% dans le salaire, cette somme peut permettre au moins à des milliers de personnes d'avoir des logements. On ne peut pas toujours compter sur l'aide extérieure, parce que nous avons des pays riches, malheureusement mal gouvernés. Mais si vous avez eu un dirigeant qui a accepté de prélever les 1% dans vos salaires pour construire des logements qui va profiter à tout le monde, et on va même pas parler de dette extérieure, je crois que la justice devait voir ce côté-là et permettre à l'autorité d'exercer son droit.
C'est la réflexion de Charles Bazema à Ouagadougou. Il parlait du Kenya, où la haute cour de Nairobi a donc décidé d'annuler une loi, de la juger illégale, une loi qui concerne notamment un pourcentage qui est prélevé sur le salaire de la population pour financer les logements sociaux. On a Aimé de Souza qui est au Togo et qui a aussi quelque chose à dire, on l'écoute.
Il faudrait dire que c'est un problème récurrent qui est d'actualité. Et la population, surtout de Grand Lomé, n'ont pas accès à des logements parce que les prix sont tellement exorbitants que la population n'arrive pas à avoir accès. Mais l'année passée, je pense c'était en janvier, le gouvernement togolais a fait sortir un décret concernant la hausse des prix des loyers et des cautions pour que cela soit réduit à 3 mois pour faciliter le paiement, l'accès à la population togolaise. Mais je pense que ce n'est pas encore mis en vigueur et cela n'est pas encore pratiqué sur le territoire togolais. Et vraiment, les femmes en souffrent beaucoup. C'est Aimé de Souza du Togo.
On a parlé tout à l'heure du Sénégal, notamment du décret sur la baisse des loyers. Alors cette baisse, elle est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs CFA, de 10% pour ceux de 300 000 à 500 000 francs CFA et de 15% pour ceux de moins de 300 000 francs CFA. Voilà. Et on sait aussi qu'au Sénégal, il y a la Société nationale des HLM qui a lancé plusieurs projets, notamment le projet des parcelles à Séni de Saint-Louis, c'est 1141 parcelles de 250 mètres carrés à 400 mètres carrés avec 225 logements et 900 parcelles auto pour l'autoconstruction. On a aussi la cité Corosol et ils en sont, je crois, à la première phase du côté de Rufisque. C'est 367 logements pour des maisons individuelles. On peut avoir des petites maisons à 20 000 dollars. Et il faut savoir que au Sénégal, l'État gère des HLM depuis 1959. On retourne en République démocratique du Congo pour écouter Hortense Kavo-Maliro, qui est présidente d'une association de personnes handicapées.
Je pense que c'est la responsabilité de l'État. parce qu'il faudrait que l'État arrive à donner les moyens qui favorisent aux constructions des sites d'hébergement pour tous, des maisons accessibles à tous, aux personnes handicapées, au troisième âge, de telle manière que tout le monde puisse avoir un logement décent. Comme je peux dire, par exemple, ici chez nous, c'est très compliqué, c'est un problème très général, si je peux dire, parce que c'est au niveau même des services de cadastre qui est censé accorder des terrains, des espaces et tout, mais tu peux acheter une parcelle et du coup tu te retrouves après des années, après avoir construit ta maison, on te déguerpit. Et puis c'est la femme qui reste avec les enfants, qui est victime de tout ça, c'est-à-dire qu'il faudrait réglementer toutes ces histoires-là. Et même des maisons de l'État, nous n'avons pas assez, nous n'avons pas vraiment assez parce que il y a seulement une catégorie qui les occupe et quand quelqu'un veut sortir de cette maison-là de l'État, il a déjà quelqu'un qui va le suivre. Donc, on pérennise ça pour une famille donnée et ça exclut les défavorisés. Parce que ce sont des maisons qu'on paye les loyers très, très, très bas. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État puisse mettre les moyens à disposition et construire de vrais sites.
C'était Hortense Kavou-Maliroux qui est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je reviens encore sur cette enquête du Centre pour le financement des habitations abordables qui a constaté qu'en Afrique, les banques, elles font des prêts de 7 à 12% donc pour les gens qui veulent donc acheter des maisons ou autres, ce qui est très très élevé en réalité. On sait qu'en Occident, on peut avoir des prêts beaucoup plus bas. Et on a parlé tout à l'heure du Tchad, disant que les institutions de microfinance offrent aux femmes des prêts de 1 587 $ pour des terrains non bâtis avec des périodes de remboursement de 12 mois et des intérêts élevés jusqu'à 24% par an. Donc c'est toujours ce centre pour le financement des habitations abordables qui le dit. Retournons encore une fois au Togo et on écoute cette fois-ci la réflexion de Fernandez Toyou.
Je pense vraiment qu'il y a des dispositions à prendre pour aider la population. Les mesures sociales prises dans les différents États sont des mesures, quoi qu'on dise, qui peuvent aider la population afin de stabiliser un peu leur niveau de vie. De nos jours, les loyers vraiment flambent. Surtout ici, je parle du Togo donc, et les prix même des terrains deviennent prohibitifs. Donc, ces différentes mesures peuvent aider la population. Et il faut aussi parler de la catégorisation des populations. Il y a des fonctionnaires, il y a ceux du privé, il y en a qui ne travaillent pas. Donc, il faut essayer de prendre des mesures par secteur pour aider la population. Pour ceux qui ne travaillent pas, il va falloir que l'État prenne des mesures sociales efficaces pour pouvoir soutenir cette couche sociale.
C'était Fernandez Toyou, il est au Togo. On pourrait citer à présent Olivier Accenti, il est à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il a écrit, je le cite, « En ce qui concerne le contrôle des prix de location des immeubles et des maisons appartenant à des privés, les gouvernements peuvent en effet mettre en place des mécanismes de régulation pour limiter les hausses abusives des loyers et protéger les locataires. Cependant, dit-il, il est important de trouver un équilibre afin de ne pas décourager les propriétaires d'investir dans l'immobilier locatif. » Et il dit, en fin de compte, il est essentiel que les gouvernements travaillent en collaboration avec le secteur privé pour trouver des solutions durables afin de garantir à toutes les familles un accès à des logements décents et abordable. À présent, on va écouter une Gabonaise qui vit au Canada et qui investit justement dans l'immobilier en Afrique. C'est Stéphanie Padonneau.
Les moins nantis ont de plus en plus de mal à se loger dans mon pays, le Gabon. Alors que le prix des loyers ne cesse d'augmenter, la qualité des conditions de logement, elle, ne cesse de baisser pour les plus démunis, mettant même parfois en danger la vie de famille tout entière. Face à ce problème social qui engendre une multitude d'autres problèmes, je pense sincèrement que c'est l'État qui devrait construire des logements abordables pour les plus défavorisés. Et le prix de ces logements devrait être modique et pourrait être modulé en fonction, par exemple, des revenus familiaux, ou du type de composition familiale. Aussi, ces logements pourraient être accessibles prioritairement aux familles avec des personnes handicapées ou vulnérables. Les demandes administratives afin d'obtenir de tels logements ne devraient pas être lourdes ni trop contraignantes pour ne pas décourager. Et que ce soit sous forme de location-vente ou de simple location, les loyers pourraient être directement prélevés à la source, par exemple pour les fonctionnaires, pour rembourser peut-être justement une forme d'hypothèque ou en tout cas tout ça serait défini d'une certaine façon et selon les situations. Au-delà des coûts d'investissement engendrés au départ, une telle façon de faire permettrait à l'État de régler une multitude d'autres problèmes qui découlent directement de cette situation, tels que l'accès pour tous aux services utiles. Un tel projet permettrait à l'État de garder un certain contrôle sur la fluctuation des prix des loyers.
Voilà, l'accès pour tous aux services utiles. Hein. Donc c'est Stéphanie Padenou qui le dit. Je reviens sur la fameuse enquête dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est toujours à propos du Tchad, entre autres. Hein. Donc je cite le Centre pour le financement des habitations abordables dit « Le gouvernement n'agit dans la fourniture de logements qu'au travers de Soprofim, censé promouvoir la vente des parcelles et des logements sociaux aux demandeurs qualifiés. La contribution de l'État s'est limitée à créer un environnement propice aux promoteurs ainsi que l'attribution gratuite des sites pour la construction de la première série de logements sociaux. Hein, on sait qu'au Tchad, effectivement, il y a normalement des projets de construction de logements sociaux. Alors donc, le Centre pour le financement des habitations abordables poursuit en disant « Aucune subvention officielle n'est accordée à aucun service au logement. Profitant de cette faiblesse étatique, des particuliers sont très actifs dans l'immobilier et ont construit des appartements gérés par leurs propres agences immobilières informelles à N'Djamena. Écoutons à présent à Kinshasa le docteur Rebecca Yambo.
Avoir un toit où dormir est très capital dans la sécurité, dans la stabilité de l'individu ainsi que de sa famille. Selon le droit international, avoir un logement, être à l'abri des intempéries et ne pas avoir peur d'être expulsé à tout moment est un droit pour tout individu. Certains employeurs l'ont compris et ils ont ajouté au contrat de travail une certaine somme pour permettre aux employés de payer le logement. Et chez nous, par exemple, en République démocratique du Congo, en étant médecin, il n'y a pas assez longtemps qu'on a ajouté une somme pour le logement. Et cela est très encourageant, car nous savons que qu'on revoie les prix de logement à la hausse soit à la baisse, il y aura toujours des sans-abri, il y aura toujours des gens qui seront incapables de payer ces logements, car le prix du logement dépend généralement des bailleurs et aussi de l'endroit où se trouvent les logements. Le plus important, à mon avis, c'est d'offrir à toute la population, à chacun, une vie sociale assez équitable, qui ait un accès au travail, aux emplois assez facilement, et surtout concernant les entreprises, prise des microfinancements qui permettent, comme on dit, au petit peuple, les personnes qui n'ont pas assez de moyens d'avoir aussi l'opportunité de faire un prêt avec un taux d'intérêt assez abordable pour leur permettre de commencer leur petite entreprise, pour leur permettre de prendre soin d'eux et de leur famille, ainsi que payer leur logement.
Voilà une réflexion intéressante de Rebecca Yambo. Effectivement, vous avez été plusieurs à faire remarquer finalement que oui, pour pouvoir payer son loyer, il faut avoir un bon niveau de vie. Donc en fait, tout est lié. Hein. Il faut avoir un emploi bien payé, des bons salaires, une bonne sécurité sociale, etc. On reste en République démocratique du Congo pour écouter le point de vue de Alpha Wambuyu.
Ici, chez d'abord à Lubumbashi, le logement est devenu un business. C'est au moins un secteur qui n'est pas contrôlé totalement par l'État congolais. Et c'est ce qui fait que les familles défavorisées, les familles démunies se retrouvent parfois dans des milieux un peu reculés. Parce que dans ces milieux-là, il y a au moins des prix abordables. Alors, si l'on veut permettre à ces familles-là de se trouver aussi de bons logements, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique de régulation. Et cette politique-là doit mettre en jeu tous les facteurs, ce qu'il y a comme garantie, ce qu'il y a comme frais de loyer. Ici, chez nous, par exemple, chaque bailleur a ses propres mesures, a ses propres lois. Et il y a certains bailleurs qui ne connaissent même pas les respects mutuels. Parce que dans les contrats, on peut écrire les articles concernant les bailleurs et de l'autre part, les locataires. Mais malheureusement, c'est toujours les bailleurs qui priment. Alors que dans un pays où la loi fait son travail, on ne peut pas avoir ce genre d'injustice.
On écoute tout de suite toujours en RDC, Élisée Zola. Ce qui est des logements sociaux au niveau de la République démocratique du Congo, il y en a eu dans la période coloniale. C'était une instance qui s'appelait l'OCA, donc Office des Cités Africaines, qui organisait donc des logements sociaux pour les travailleurs. Et puis a suivi à l'époque du président Mobutu, donc pendant la Deuxième République, une structure appelée ONL, donc Office National du Logement, qui en fait régit tout ce qui était logement pour les militaires, les policiers, et aussi une partie pour les civils. Et ils ont travaillé en partenariat public-privé et ils ont fondé des cités comme la cité Salongo et bien d'autres.
Encore une Congolaise pour terminer rapidement, Leilia Mbimbe, elle vit au Cameroun.
Concernant le sujet du jour, voilà les questions qui sont de savoir comment permettre aux familles défavorisées d'accéder à des logements décents avec les commodités de base. Je pense que l'État a un rôle à jouer en majeure partie de par la construction des logements sociaux. Et ces logements sociaux-là permettront aux familles défavorisées, voire vulnérables, d'avoir au moins un toit. Et par la suite...
Voilà, c'était Leila Mbimbe. Pour terminer avec vous, c'était Nathalie Barge à la production. Michel Joseph, restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.